La foi nos 48. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le 26 novembre 2017. Brian Kozurek, pasteur. Hébreux 6.10 car Dieu n'espère pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. 12 En sorte que vous n'ayez mis vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ce matin, j'aimerais parler ici de cette pensée par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Remarquez que nous examinons la foi plus la persévérance est égale à hériter des promesses. Job Agir de 23 avril 64 Frère Branham nous raconte comment nous nous reposons dans la promesse de Dieu. 174 Et remarquez, une foi véritable repose sur le roc solide de la promesse de la parole de Dieu. Elle n'est mis bouche pas. La foi véritable est ancrée. 175 Esther comme l'étoile polaire. L'étoile polaire Esther un poteau d'attache pour tout capitaine de navire. La boussole Néhémie lui indique que cette étoile polaire. Et Dieu. La parole. Esther l'étoile polaire de tout chrétien quand il est égaré. Et le Saint-Esprit Esther celui qui vous indique cela. Il Néhémie vous indiquera rien d'autre. Tous les autres ismes. Et tout le reste. Et est le christianisme emmêlé, quoi que ce soit, ça passe comme le monde, ça change ses étoiles, mais cela Néhémie peut pas changer cette étoile polaire. Rien non plus Néhémie peut changer la parole de Dieu. Ancrez-vous-y, tenez-vous-en à elle. 176 Maintenant, les doctrines humaines et les credos ainsi que l'incrédulité n'ébranlent pas une foi véritable. Une foi véritable dont la parole s'en tient exactement à la parole. 177 Et sur quoi d'autre pouvez-vous reposer votre foi, si ce n'est sur la parole? Si Dieu l'a dit, accrochez-vous Y. Cela est vrai. Elle ne m'y change pas. Et elle puise du livre de Dieu qui porte les saints, la Bible, ses attributs, ce qu'il a promis, ce qu'il a promis, s'estère sa parole. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ensuite, car ce sera la chose la plus importante que vous puissiez retirer du sermon d'aujourd'hui. Il dit, la parole se reproduit. Elle doit être une pensée avant d'être la parole. Ensuite la parole estère manifestée, et s'estère de là que vous puisiez votre force, en croyant pour le Créateur, en croyant comme lui, qui était le Créateur qui a créé le monde. Cela me rappelle ce que nous avons examiné au cours des derniers sermons, où nous avons montré que Frère Branham a dit que la foi dans la promesse se reproduira en vous. Allons dans nos Bibles à Pierre 4.12. Pour notre texte, où Pierre a dit, bien-aimés, Néhémie soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui estère au milieu de vous pour vous éprouver. Et nous devons nous poser la question, à quoi servent les épreuves? Et nous avons notre réponse au verset 13 où il dit, réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire, sa doxa qui sont ses opinions, valeurs, et jugement apparaîtra. Vous voyez donc que les épreuves doivent tester notre foi en sa parole. On voit aussi dans Pierre 1.3 béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 4 pour un héritage. Maintenant, écoutez, il parle ici d'adoption, parce que l'héritage, c'est Esther pour les fils et filles de Dieu. Voyons donc ce qu'il dit de cet héritage. Tout d'abord, il n'est mis sous peu ni corrompre. Puis, il dit, ni souillé. Donc vous voyez que nous devons recevoir un héritage, qui n'est mis peu ni se corrompre, ni se souiller. Et remarquez ensuite, s'il n'est mis sous peu ni corrompre, ni souillé, il ajoute, sourire, ni flétrir. Par conséquent, s'il n'est mis sous peu jamais flétrir, ni corrompre, il n'est mis peut-être brisé, il n'est mis peut-être plié ni déformé de quelque façon que ce soit. C'est donc pur. Et si ça n'est mis peu flétrir, ça veut dire que vous l'aurez pour toujours. Et puis il dit, sourire. Lequel vous est à réserver dans les cieux? Maintenant, c'est plutôt une bonne chose. C'est préservé pour nous au ciel. Et vous savez ce qu'est cet héritage? Qui est conservé pour nous au ciel? C'est la parole de Dieu dont il est dit dans Romains 1.16 qu'elle est la puissance de Dieu, et la sagesse, et elle est donc ce que Dieu est intrinsèquement. Au verset 23 de ce même chapitre de 1 Pierre, on nous dit que la parole de Dieu est incorruptible et permanente. Notre héritage doit donc être la parole de Dieu. Eh bien, vous pensez peut-être, super, je pensais que ce serait des grands trésors et des grandes richesses et des choses comme ça. Mais écoutez, ces choses disparaîtront, mais cela n'est mis, peut jamais disparaître. Maintenant, ce pourquoi cela peut n'est mis pas simuler certaines personnes, c'est parce qu'ils n'est mis, comprennent pas ce qu'est la parole de Dieu, mais Dieu a créé le monde par sa parole. C'est Hébreux 11. Et il a fallu que Dieu ait foi en sa propre parole pour le faire. Et donc nous continuons de lire dans 1 Pierre 1.5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Remarquez que cela nous dit que Dieu nous garde par sa parole. Parce que la parole de Dieu est à la puissance de Dieu. Et Pierre continue en disant, sourire. Par la foi, par la révélation, pour apporter le salut et cette foi aux révélations prêt à être révélée dans les derniers temps. Alors, quelle est cette foi aux révélations qui doit nous être révélée? Et je peux ajouter, en nous à la fin des temps, c'est la révélation de Jésus-Christ. Regardez, combien se souviennent de mon sermon intitulé « La foi de Jésus de Gethsémané à la croix » Eh bien, quelle était cette foi qui a conduit Jésus de Gethsémané à la croix? C'était la foi de Dieu dans sa propre parole. Et une fois que Jésus s'est emparé de la foi de Dieu, la bataille était finie. Oh! Cela ne signifie pas que les épreuves étaient terminées. Mais cela signifie que sa foi s'est emparée et a scellé la promesse pour lui. Dans son sermon « Trouverai-je de la foi à mon retour 51-0508 » Frère Branham a dit, 33 est le Dieu même qui, jadis au commencement, a déployé le monde, la lune, les étoiles, et qui les a créés à partir des choses invisibles. Ou les a créés à partir des choses visibles. À partir des choses. Et où a-t-il trouvé les matériaux pour le faire ? Il les a amenés à l'existence par sa parole. Il a dit, qu'il y ait, et il y eut, la divinité. Et 7. Une portion de cette divinité habite dans le cœur de chaque chrétien né de nouveau. Alléluia. Alors, qu'a-t-il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous y êtes. La divinité. Elle est descendue le jour de la Pentecôte. Elle n'a pas cessé depuis. Ce que je veux établir dans nos cœurs ce matin, c'est que la parole de Dieu est notre héritage, c'est ce qui n'est mis peut pas périr, et c'est ce qui n'est pas souillé et qui n'est mis peut jamais flétrir. Mais comme je l'ai dit, seuls les fils adoptables recevront l'héritage et aucun autre fils n'est mis le recevra. Maintenant, Nous avons étudié l'adoption depuis assez longtemps pour que vous sachiez que même si vous êtes un fils, si vous n'êtes pas le bon genre de fils, vous ne recevez pas d'héritage. Et le bon genre de fils Esther, celui qui s'occupe toujours des affaires de son père, qui a la pensée du père et aime faire la volonté du père. Et ce sont ces fils-là qui seront adoptés et placés comme fils. Et ce sont ceux-là qui recevront l'héritage qui Esther la parole de Dieu. Vous arriverez au point où vous prononcerez la parole et elle créera, tout comme le père. Dans son serment La Parole Fatshadim 3 octobre 54 m 183 et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, alors que vous êtes vidé, amen, alors ce sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Voyez-vous ce que je veux dire? L'Assemblée dit, amen. -de, vos pensées deviendront alors des paroles, et vos paroles se matérialiseront. Esther quand l'Église, dans sa puissance, 184 Je crois que Esther en route, que lorsque l'Église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, que le genre humain sera si dépouillé de lui, même, qu'ils n'y se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront aucune autre pensée que de servir Dieu. Et leur pensée continue d'avancer. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans l'Esprit, Néhémie vivent que dans l'Esprit, n'agissent que dans l'Esprit, Néhémie marche que dans l'Esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Alors, l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse Église s'avancera, ayant la puissance et la divinité, car la divinité sera révélée dans les êtres humains, par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Dans son sermon, l'identification mère 23 janvier 63-99 Tournez-vous vers lui, vous toutes les extrémités de la terre, et vivez. Et l'unique façon pour vous de pouvoir, sans son la nature pécherait sans péché à exprimer la parole de Dieu, à tel point que lui et la parole est éteint. Esther ce qu'il a dit. Moi et mon père, nous sommes un. Je fais toujours ce qui plaît au. Moi et mon père, nous sommes tout à fait un. Il était si parfaitement à l'image de Dieu que lui et Dieu exprimaient la même chose. Il était la chair, le Fils, qui exprimait la divinité de Dieu. Ainsi, cela faisait de lui la divinité dans un homme en vue de racheter l'homme. Vous voyez, lui et la parole étaient un. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Ainsi, lui et la parole sont devenus un afin que la parole s'exprime et montre au monde cet exemple de ce que l'homme devrait être. Et encore dans son sermon L'âge de l'Église de Pergame 7 décembre 60-91 Bon, si l'Esther la parole vivante, alors ce qui Esther écrit dans la Bible Esther une partie de lui, par conséquent, si vous pouvez recevoir ceci en lui, Esther a dit à la parole. Cette parole qui vient vous par la foi, la vivifie parce que le. Oh. Saisissez cela. La parole vient en vous. Si le Saint-Esprit Esther l'a à l'intérieur, il devient vivant aussitôt qu'elle entre, et chaque promesse devient vraie. C'est Esther pourquoi, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous Néhémie, doutez pas dans votre cœur. Pourquoi? Vous êtes la divinité qui parle. Le croyez-vous? C'est Esther la Bible qui le dit. Et quoi que vous disiez, cela arrivera si vous Néhémie doutez pas, si vous pouvez faire sortir de vous tout ce qui est Esther du monde et laisser le Saint-Esprit faire de vous un fils ou une fille de Dieu accompli, sans le monde, sans condamnation ni doute. Qu'est-ce alors? Ce n'est plus vous. C'est Esther Dieu en vous. Alors, vous prenez sa parole. Elle Esther une promesse. Et vous dites, Père, si Esther tes promesses. Satan, quelque chose doit s'en aller. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, en revenant à Épierin, nous reprendrons le verset 6. Esther là, ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Remarquez qu'il dit que nous aurons de multiples épreuves s'il le faut. Donc, comme Pierre l'a dit dans notre texte, bien-aimé, Néhémie, soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est Esther au milieu de vous pour vous éprouver. Et pourquoi nous, Néhémie, devons pas être surpris? Parce qu'il a dit que vous serez testés si cela s'avère nécessaire. C'est Esther là la clé. Seigneur, pourquoi tous ces tests? Parce que vous en avez besoin. Voilà pourquoi. Et pourquoi nous en avons besoin? Parce que vous n'avez pas encore abandonné vos désirs mondains et vos ambitions mondaines. Et vous n'avez pas encore laissé Christ prendre le contrôle de votre être. Alors il dit, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez donc que nous devons subir les épreuves de notre foi. Donc, le test n'a pas pour but de savoir combien vous êtes génial, et combien vous avez de la connaissance, et combien vous pouvez vous sanctifier. Mais les épreuves sont là pour éprouver votre foi. En d'autres termes, la foi ou la révélation en vous doit être testée et éprouvée afin de s'assurer qu'elle produise ce qu'elle est censée produire. Maintenant, permettez-moi de lire jusqu'à la fin du chapitre, puis je commenterai encore. Épierre 1.8 Celui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, plein de gloire, d'après la version anglaise du roi Jacques, Doxa, pleine de ses opinions, de ses valeurs, et de ses jugements, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 10 les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous empêchaient l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. 13 Esther pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous savons que dans 1 Corinthiens 1.4-10 on nous dit que cette grâce qui sera apportée, ce sera dans le but de nous amener à la maturité afin que nous puissions avoir l'Esprit de Christ en nous, et que nous puissions tous tenir un même langage concernant la doctrine. 14 Comme des enfants obéissants, Néhémie vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 15 Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, 16 vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, en revenant au verset 7, on nous promet que les épreuves de notre foi aux révélations doivent produire en nous la louange, l'honneur et la gloire. Vous voyez, on n'y teste pas les choses juste pour les tester. Nous les testons dans le but de les approuver. Nous testons les étudiants après qu'ils soient prêts à prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour passer la première année et être promus en deuxième année. Donc, à chaque test réussi, nous sommes promus d'un échelon à un autre, pour ainsi dire. Maintenant, là où je veux en venir, C'est-ce que cette révélation de Jésus-Christ, si vous l'avez vraiment reçue dans votre pensée et dans votre âme, alors, comme frère Branham l'a dit, vous devenez une divinité exprimée à ce monde. La divinité de Jésus-Christ dit 25 décembre 49 80 cette même puissance, ce même Christ. Alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est terre fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est terre vrai. Hommes et femmes. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous n'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel, elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Frère Branham frappe trois fois sur la chair. Tirez-le, lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie mortelle. Je donne ma vie. Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. Donc ce que vous êtes dans votre pensée et dans votre âme, c'est ce que vous êtes. Et Jésus a dit, quel que soit ce qu'un homme pense, tel il est. Par conséquent, si la révélation de Jésus-Christ est en vous, alors elle affectera non seulement votre caractère, mais elle moulera son caractère dans votre caractère, et tout ce qu'il révèle dans votre cœur, affectera même les circonstances que vous rencontrez quotidiennement, lesquelles circonstances Dieu utilise pour façonner votre caractère en son produit final que Dieu a prédestiné. Écoutez, nous connaissons tous dans Matthieu 13 la parabole du Fils de l'homme qui sortit pour semer, et nous savons aussi que ces semences étaient la parole de Dieu, et nous savons aussi que la parole est la vie. Donc ces semences, en tant que porteuses de la vie de Dieu, sont les enfants de Dieu. Nous savons tout cela. Eh bien, ces pensées dans votre pensée sont aussi des semences. Et en tant que semence, elles contiennent la vie. Par conséquent, chaque épreuve que vous endurez, chaque épreuve par laquelle Dieu vous fait passer, arrive suite aux semences pensées qui se trouvent dans votre cœur. Ensuite, comme Pierre l'a dit, cela ne devrait pas nous surprendre lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, car ces épreuves sont effectuées dans le but de nous tester. En fait, nous voyons dans 1 Pierre 1.7 que, non seulement nous sommes ordonnés à avoir ces tests, nous sommes également ordonnés à les surmonter. Vu cette translation, dans laquelle dernière saison vous vous réjouissez constamment d'une joie qui s'exprime dans une exubérance triomphante. Bien que, pour un peu de temps, en ce moment, s'il s'en faut, vous êtes attristé au milieu de nombreux types de tests afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par des tests dans le but d'être éprouvée, que votre approbation étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est approuvé par le test du feu, puisse être découverte après examen afin d'aboutir à la louange, l'honneur et la gloire au moment de la révélation de Jésus-Christ. Par conséquent, nous pouvons dire que chaque épreuve par laquelle vous passez et chaque fois que vous êtes testé par Dieu et que vous n'avez mis, pouvez pas voir au-delà des circonstances qui entourent votre vie. Rappelez-vous juste quels sont tous les résultats des semences de votre pensée et elles ont jailli de votre cœur. Rappelez-vous ce que Paul nous a dit dans l'épître aux Romains 1.28-31-28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. et ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Par conséquent, si tout ce qui nous concerne est déjà prédestiné par Dieu, alors les pensées que nous pensons, il savait avant les fondations du monde, que nous les aurions, et il sait non seulement ce que vous avez pensé, mais il sait aussi ce que vous allez penser. Ensuite, nous pouvons voir la relation qu'il y a entre ces pensées que nous avons et comment elles influencent notre croissance à l'image de son Fils. Nos pensées sont toujours dans un flux constant de changement. Quand nous étions enfants, nous avions certaines pensées qui remplissaient nos pensées. Ensuite, à travers les expériences de la vie, nous avons commencé à développer davantage nos pensées. Et alors que nous recevons chaque nouvelle expérience, nos pensées commencent à examiner les circonstances de nos vies avec une compréhension plus mature. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1:3.1 « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et donc nous voyons que notre pensée est dans un schéma de croissance constante, dans lequel notre jardin où nos pensées s'améliorent constamment, pour ainsi dire, ou se renouvelle par les expériences de la vie que nous traversons lors de notre cheminement vers ce que nous devenons. Paul nous dit dans Romains 5:3-5 que bien plus, nous nous glorifions même des afflictions ou de nos épreuves. Maintenant, ce mot ici est un mot grec qui signifie ces choses qui semblent mettre une pression sur nous. Pourquoi pensons-nous toujours que nos épreuves viennent de quelqu'un qui les a produites? Quand Paul nous dit que nous devons nous glorifier de ces choses, parce qu'il poursuit pour dire, sachant que la tribulation produit en vous la patience, et la patience, l'expérience qui estère le caractère, et le caractère suscite une attente fervente, et d'avoir une attente fervente Néhémie nous rend pas honteux. Car nous savons que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs ou notre compréhension par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour avoir reçu sa parole. Par conséquent, nous voyons que Dieu utilise les circonstances de notre vie pour faire émerger en nous son caractère et sa grâce. Alors, le développement de notre caractère dépend de la façon dont nous percevons le stimulus extérieur et de la façon dont nous réagissons à ces épreuves parce que Dieu essaie de produire ses paroles dans notre pensée. Ainsi, ces stimuli nous amènent à l'accomplissement, vers le but ultime de recevoir la pensée même de Dieu. Parce qu'après tout, Dieu veut que nous fassions ce que son Fils a fait, et à chaque tentation qui est venue à lui, il est allé directement à la parole. Et c'est ce que Ève n'a pas fait. Quand ce petit rusé arrive et essaie d'amener vos enfants à faire quelque chose que vous, papa, leur avez enseigné Néhémie pas être bien, quand il dira, oh, allons donc, c'est bon, allons faire ceci ou cela. Et dans votre pensée, votre éducation d'enfant surgit dans votre pensée et dit, « Mais papa a dit que je n'aime, il ne devrait pas le faire. » Ou « Mais moi a dit que c'était faux. » Eh bien, c'est la même chose avec Dieu et sa parole. Il essaie de remplir nos petites pensées d'une très grande quantité de sa parole. En sorte que, comme Jésus l'a dit dans les mêmes épreuves que vous, il a dit, « Il est écrit, ou il est aussi écrit, etc. » Par conséquent, les réactions que nous avons à l'égard de ces circonstances sont des indications extérieures de là où nous en sommes dans notre développement en tant que fils de Dieu. La façon dont nous gérons chaque circonstance dépendra du stade dans lequel nous sommes dans notre développement, notre progression vers notre caractère ultime en tant que des fils obéissants. Ainsi, ce qui semble être un test à un stade de notre progression n'apparaîtra plus ainsi à un stade ultérieur du développement de notre caractère. Les circonstances, c'est comme passer un test à l'école. ce qui semble être une chose difficile pour nous lors de notre première année de scolarité. Néhémie semble même pas être un test après 12 ans de scolarité. Plus nous progressons, dans notre état progressif, vers l'image de Dieu à laquelle nous devenons semblables, plus sera développé le mécanisme de réponse que nous hébergeons dans notre mentalité ou le jardin des semences de notre pensée. Par conséquent, chaque circonstance à laquelle nous sommes confrontés dans la vie estère une croissance de notre esprit ou de nos pensées. Les circonstances naissent de la pensée. Nous sommes secoués par les circonstances aussi longtemps que nous les percevons comme étant une influence extérieure sur nos vies. Lorsqu'enfin, nous comprenons que les circonstances qui surviennent dans nos vies sont les résultats de notre état mental, nous commencerons à apprécier leur utilisation et leur but dans notre croissance vers le produit fini que Dieu a destiné à chacun de nous. Quiconque a été, pendant un certain temps, un chrétien pratiquant et qui a pratiqué la maîtrise de soi et l'auto-purification ou sanctification, aura remarqué que l'altération de sa circonstance a été directement proportionnelle à l'altération de son état mental. Lorsque vous faites un effort délibéré et sérieux pour remédier à vos défauts de caractère personnel et faites des progrès rapides et marqués vers votre amélioration dans les domaines où vous êtes faible, vous traversez rapidement une succession de changements imprévisibles. Par conséquent, votre âme attire ce qu'elle désire secrètement, et aussi ce qu'elle craint le plus. L'âme atteint non seulement les hauteurs de ses aspirations, mais elle tombe aussi au niveau de ses désirs non disciplinés, et les circonstances sont les moyens par lesquels votre âme reçoit ce qu'elle désire ardemment. Par conséquent, chaque semence pensée que nous permettons de tomber dans le sol fertile de notre esprit, d'y prendre racine, se reproduire d'après son espèce, d'après sa ressemblance ou sa nature. Oui, vos pensées produiront les fruits de ce qui s'y trouve. Tôt ou tard, chaque semence pensée que nous avons semée dans nos cœurs devra s'épanouir et se manifester dans nos vies comme une action ou un acte. Et chaque action ou acte portera ses fruits en termes d'opportunités ou de circonstances. Comme nous le disent les saintes écritures, les bonnes pensées porteront de bons fruits et les mauvaises pensées porteront de mauvais fruits. C'est pourquoi nous devons arriver au point où nous commençons à surveiller et contrôler ce que nous pensons et croyons. Pierre nous dit dans 1 Pierre 1.20-22 que si nous souffrons pour l'amour de Christ, cela est acceptable avec Dieu, mais si nous souffrons pour ce que nous avons causé, alors nous devons patiemment en supporter les conséquences. Sachant, comme Paul l'a enseigné dans Romains 8, que toute chose concourt pour notre bien. Comme vous pouvez le voir, vos pensées sont des semences qui doivent manifester la nature qui se trouve dans la semence. Puisque la vie dans la semence se fera connaître, alors quand la pensée semence cède la place à une expérience de la vie sous la forme d'une action ou d'un acte, alors elle fera que d'autres choses se produisent en réaction. Par conséquent, comme Pierre l'a dit, Néhémie, soyez pas si choqués et si surpris si vos actions font que d'autres circonstances se produisent, circonstances que vous pourriez penser Néhémie peut pas contrôler. Vous pouvez vraiment les contrôler en faisant en sorte qu'elles n'aient se produisent pas en premier lieu. La loi de la physique nous dit pour chaque action, il y a une réaction. Et dans son sermon tester les réactions ou la réaction à une action, frère Branham nous a appris que Dieu utilise les actions ou les circonstances de notre vie pour tester nos réactions. Par conséquent, il nous appartient d'être attentifs à la façon dont nous faisons les choses. Si nous croyons vraiment que tout ce que nous semons produira une récolte, alors quand nous semons des discours haineux, nous ne devrions pas être surpris lorsque les critiques nous reviennent en pleine figure. Par conséquent, nous pouvons voir comment les circonstances peuvent réellement prendre forme autour de nos pensées intérieures. Alors, nous pouvons voir que Dieu utilise dans notre vie, à la fois des événements externes agréables et désagréables, afin de faire concourir toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi nous apprenons de nos souffrances et de nos bénédictions. Chacune d'elles contribue à notre croissance vers l'image de Christ, que nous désirons si ardemment dans nos âmes. Nous devons donc être en mesure de voir comment nos actions Néhémie sont qu'une expression de nos pensées. Les circonstances Néhémie se produisent pas pour se produire. Elles découlent des conditions de notre cœur. Tout comme nos vies spirituelles sont progressives, où la parole doit s'empiler sur la parole afin d'engendrer notre corps glorifié. De même nos circonstances s'ajoutent à notre souffrance, afin d'aider notre personnage à grandir et à se développer. Chaque situation à laquelle nous sommes confrontés dans la vie est comme la pièce d'un grand puzzle qui, une fois assemblée, donne un sens et un dessin à chacun d'elles. Les circonstances et les conditions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour Néhémie font que nous aider à savoir où nous en sommes dans notre développement. Par conséquent, il se peut que vous Néhémie receviez pas toujours ce pour quoi vous avez prié, mais sachez une chose avec certitude, vous récolterez toujours ce que vous avez semé. Alors nos désirs et nos prières Néhémie nous sont bénéfiques que lorsqu'ils sont en harmonie avec ce que nous semons réellement dans les recoins de notre esprit. Quand on se bat contre les circonstances, nous Néhémie nous faisons que nous révolter contre l'effet de ce que nous semons. Nous voyons les circonstances extérieures, et il se peut que nous n'aimions pas ce que nous voyons. Pourtant elles sont là uniquement parce que nous continuons à les nourrir dans nos esprits, et nous continuons à les nourrir, les conservant ainsi dans notre esprit. Vous Néhémie pouvez pas améliorer vos circonstances sans vous améliorer vous-même. Et c'est pourquoi nos circonstances restent les mêmes. Si nous Néhémie voulons pas mourir à nous-mêmes, nous Néhémie réaliserons pas les désirs de notre cœur. Un homme qui souhaite avoir un meilleur style de vie doit être prêt à travailler pour ce qu'il veut. Trop de gens vivent dans la pauvreté qui, cependant, Néhémie souhaite que pouvoir s'élever au-dessus de la pauvreté. Mais que font-ils à ce sujet? Que sèment-ils pour changer leur situation? Se plaindre Néhémie vous mènera jamais nulle part. Alors pourquoi se plaindre? Si vous voulez changer, vous devez être prêt à changer. Vous devez être le facteur de ce changement. Cela me rappelle un poème que j'ai entendu frère Branham raconter. Dans son sermon La semence du serpent 58-0928, il dit, 99 un petit poème qui m'aidait tellement quand j'étais enfant. Voici en gros ce qu'il dit. Un jour, un noble romain, à l'époque de l'Empire, entendit un sombre défaitiste devant le château dire, oh, loin du danger me suis, dans ce sapin, caché. Nul Néhémie saura trouver moyen de l'ébranler. Oh non, le héros de s'écrier, moyen le trouverait, sinon le fournirait. S'en voilà. C'est ça. Si cette Bible enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça n'a pas été chose facile quand je suis sorti du tabernacle ce jour-là, et que tout le monde me disait qu'il arriverait ceci, et qu'il arriverait cela. Vous pourriez passer pour un fanatique, être jeté en prison, et toute l'association médicale pourrait se liguer contre vous. Mais Dieu m'avait dit de le faire. La Bible a dit qu'il l'était. Et maintenant, un feu de réveil brûle dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. Pourquoi? Néhémie vous laissez pas démonter. Comment attaquez-vous votre tâche quotidienne? Redoutez-vous le travail qui vous attend? Avez-vous du cœur à l'ouvrage? Votre tête est-elle fatiguée et vide? Je déteste ce genre de choses-là. Avez-vous du cœur à l'ouvrage? Ou êtes-vous toujours rempli de peur? Eh bien, alors, attaquez-vous à la tâche suivante en croyant que vous y arriverez. S'en tenez bon. Certainement. Prenez une décision ferme dans votre cœur, comme Daniel. Restez avec Dieu. Alors, Cessez de vous plaindre parce que cela n'est et vous mènera jamais nulle part. Cela me rappelle l'histoire d'un jeune homme qui voulait être moine. Alors, il entre dans le monastère et après son ordination, on lui dit, ce monastère est dédié au silence. Et vous serez autorisé à ne me dire que deux mots après y avoir passé 10 ans. Alors 10 ans après, on demande au jeune moine quels sont ces deux mots, et il répond, lidure. Le moine supérieur dit, nous en tiendrons compte. 10 autres années après, le jeune moine a le droit de dire 2 autres mots, et il dit, nourriture mauvaise. Le moine supérieur dit, nous en tiendrons compte. Enfin, à la fin des 10 années suivantes, on demande au jeune moine quels étaient les 2 mots qu'il aimerait dire et il répondit, je démissionne. Le moine aîné répond, eh bien, ce n'est pas étonnant. Les seuls mots qui sont sortis de votre bouche depuis 30 ans, n'émis furent que des plaintes. De toute façon. Alors allez et plaignez-vous si vous le souhaitez. Mais personne n'émis sans souci vraiment. Vous récoltez ce que vous semez. Vous êtes la cause de ce que vous êtes. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous récoltez dans votre vie. Vous n'avez pas une famille unie par la chance d'un tirage au sort, mais vous obtenez une famille très unie par un travail acharné et une communication constante. Des bonnes pensées et des bonnes actions émises peuvent jamais produire de mauvais résultats. En fait, Jésus nous a dit dans Matthieu 7.17-19, qu'un bon arbre n'émi peut pas produire de mauvais fruits. Par conséquent, si nous pensons de bonnes pensées, nous aurons de bonnes actions qui produiront de bons résultats. Vous n'aimez récolter que ce que vous avez semé. Par conséquent, si vous faites de l'Éternel vos délices, vous recevrez les choses dont vous avez besoin. Psaume 37.4 Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 16.3 dit recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Prenez l'engagement, vous êtes celui qui doit semer, et alors Dieu honorera simplement la loi de la reproduction qui dit, chaque semence se reproduira selon son espèce. J'ai vu trop de gens se plaindre de leur manque de victoire. Cependant, ils n'émissaient pas la victoire, mais la défaite. Leur Esther venu dim 15 avril 51-17 Votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. Eh bien, il se peut que vous n'y croyez pas cela. Vous direz, eh bien, ma foi Esther petite. Moi, je n'y confesserai pas cela. Voyez, Néhémie laissez pas le diable connaître cela. Dites toujours, j'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Voyez, Néhémie témoigne rien du diable. Et lorsque vous l'acceptez lui comme votre guérisseur, Néhémie vous comportez plus jamais comme si vous étiez malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-le au mot. Alors tout repose sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez, vous, tant que vous prenez Dieu au mot, alors la parole produira ce qu'elle a promis de faire. Par conséquent, des belles pensées de toutes sortes se cristallisent en habitude de grâce et de gentillesse, qui se solidifient en des circonstances amicales et gaies. Des pensées pures se cristallisent en des habitudes de sainteté et de maîtrise de soi, qui se solidifient en des circonstances de repos et de paix. Si vous semez des pensées d'indépendance, de courage et de résolution, elles apporteront des circonstances de succès, d'abondance et de liberté. Des pensées énergétiques se cristallisent en habitudes de propreté et d'assiduité, qui se solidifie dans des circonstances de courtoisie. Des pensées aimables et indulgentes se cristallisent en des habitudes de tendresse, entraînant des circonstances protectrices. Des pensées aimantes et désintéressées se cristallisent en habitudes de dévouement pour les autres, qui se solidifie en des circonstances d'éternelle prospérité et de véritable richesse. La Bible dit, pour avoir des amis, vous devez vous montrer amical. Si vous continuez à semer le même train de pensée, que ce soit bon ou mauvais, ce train de pensée n'émis peut que produire son résultat sur le caractère et les circonstances dans lesquelles vous vivez. Ésaïe 58.11 L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux n'émis tarissent pas. Jérémie 31.12 Belram sera comme un jardin arrosé. Par conséquent, tout ce que vous êtes, même votre caractère découle des pensées qui sont dans votre cœur, faisant de vous ce que vous êtes vraiment. Et vos pensées affectent tout ce qui est stère déjà en vous. Elles n'affectent Néhémie, modèle pas seulement votre caractère, mais elles affectent même vos circonstances quotidiennes et la façon dont vous gérez ces circonstances. Et Dieu utilise ces circonstances dans le développement de votre caractère en sa destination finale à laquelle il vous a prédestiné. Par conséquent, chaque épreuve que vous endurez, chaque épreuve par laquelle vous passez, Esther le résultat des pensées qui se trouvent dans votre cœur. Par conséquent, chaque semence pensée que nous autorisons à tomber dans le sol fertile de nos esprits, à y prendre racine, produira son espèce, d'après sa ressemblance ou sa nature. Tôt ou tard, chaque semence pensée que nous avons semée dans nos cœurs devront s'épanouir et se manifester dans nos vies comme une action ou acte. Et chaque action ou acte portera son fruit propre en termes d'opportunité ou de circonstance. Comme le disent les saintes écritures, les bonnes pensées porteront de bons fruits et les mauvaises pensées porteront de mauvais fruits. Par conséquent, des pensées aimantes créent une atmosphère d'aide et de confiance qui se cristallise en des habitudes de grâce, de bonté et de charité, ce qui créeront de nouvelles circonstances de convivialité et la bienveillance joyeuse, et la réciprocité de la part de ceux qui sont les bénéficiaires de vos pensées aimantes. Nous reprendrons, mercredi soir, là où nous nous arrêtons ce matin. Donc, si nous devons être placés comme fils, ce sera parce que nous serons semblables à l'image du Fils premier-né, et seront manifestés comme le Fils premier-né fut manifesté, et il a dit, « Je fais toujours la volonté de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. » Quand nous pouvons dire ces trois phrases du fond de notre cœur et nous les pensons vraiment, alors nous sommes prêts pour le placement comme fils et prêts à recevoir notre héritage, la parole de notre Père. Prions. C'est Grace Fellowship Tabernacle, mai 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.